Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui.
Des...
Clip, crop,
des...
bang,
des...
Blanc.
Et des...
Zip, shabam, pow, blanc, whiz.
Anne.
Oui, Jean-Marc.
Ça y est, c'est la rentrée.
Oui, Jean-Marc.
C'est la rentrée sur Radio B.
Oui, sur voilà. Radio B.
Que de longs mois sans vous, auditeurs. J'ai pas fait la liaison, mais j'ai pas fait exprès. De plus en plus nombreux, on me l'a dit. Quel bonheur, quelle joie nous habite. On se calme. Hein. En ce jour béni de la remise en onde de Picbull. Ah, fort des nouveautés de la saison. Importante. Nous allons faire le tour d'horizon des albums à découvrir et d'auteurs à suivre probablement. Il y a des chances. Enfin, on verra. Un relent de vacances et de paysages hors les murs de la cité, c'est ce qui va nous habiter pendant une petite heure. Un plaisir retrouvé à partager. Bienvenue chez nous. C'était une chanson, bienvenue chez nous. Bienvenue. Non, je n'ai pas la chanter, mais c'est pas grave. Bon plaisir à tous. Je voulais co-signer avec toi, Anne, mais je ne suis pas sûr que tu apprécies. Signé Jean-Marc et Anne. Et puis, on va commencer avec notre premier album, et avec une musique d'introduction qui va peut-être vous surprendre. Mais bon,
qui est de circonstance.
Qui est complètement approprié, comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Non, c'est pas une chanson de Johnny ou de François. C'est comment il s'appelait là.
Ni de François Valéry, c'est une chanson de Claude François.
Voilà.
My Way.
Rien à voir. My Way. Par
allez.
Paul Anka. Ouais. Ok. Là, on voit qu'il y a de la culture dans l'un.
Oui. Il y a de la culture dans l'un, oui.
Donc on y va et après on verra l'album en question. Qui commence alors?
C'est toi qui commence, Jean-Marc, avec ton album préféré.
C'est pas mon album préféré, mais on a pris une pile de bouquins qui sont assez sympas. Donc, il faut préciser que c'est la rentrée littéraire et c'est la rentrée BD. Mm. Donc, on a fouiné un petit peu et on a ramené dans nos cartables tout ce qui paraissait un petit peu surprenant ou intéressant. Je précise bien entre les deux, surprenant et intéressant. C'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Et moi, j'ai trouvé un truc surprenant que j'ai choisi de visu. Hein. Il s'appelle. Alors, c'est compliqué à prononcer parce qu'il faut quand même qu'on soit clair sur la prononciation.
Il faut être anglophone, anglophile, être allé en Angleterre.
Tout à fait.
Être allé à Manchester.
Merci.
Il faut remplir un certain nombre de critères pour arriver à prononcer comme Jean-Marc va le prononcer.
Arriver à le comprendre tous les deux.
Oui, tout à fait. À la suite d'un brainstorming, il faut bien le dire, où ça a chauffé. Hein, ça a chauffé du cerveau, fumait par les oreilles.
Ben, c'est normal parce que c'est tout en rouge et noir.
Oui, voilà.
En rouge et
noir.
Non,
pas celle-là. Je ne peux pas.
Alors, c'est une bande dessinée qui... Le choix vous surprendra peut-être. Et qui s'appelle... Alors, je vais le prononcer à la française et après je le prononce à l'anglaise. Parce que c'est trademark, donc on n'avait pas le droit de traduire. Hein. C'est marqué sur la couverture. Hein. Donc c'est marque déposée. Donc, ça vient des États-Unis, ça s'appelle Bandette.
Oui.
Bon, ça peut faire rigoler, on ne sait pas trop.
Oui, ça fait un peu...
Ça peut faire bandelette.
Oui,
non,
voilà.
Je suis gentil, pour...
Oui, voilà, oui, bien Jean-Marc, bien.
Ouais, pour une fois.
Bien.
Hein.
Oui, tout à fait, tu es rentré dans le comics code.
Et en fait, c'est en anglais ou en américain. Les Américains sont plus cons que les Anglais. Donc, oula.
Tu l'as dit.
Excuse-moi, Donald. ça veut dire bandit. Et comme c'est au féminin, mm-hmm. à mon avis, c'est ce qu'on a, on en a conclu entre en brainstorming, c'était fort.
En brainstormer.
Ouais, en ouais,
brainstormers.
On était deux.
Ouais.
Bandit, c'est la petite voleuse.
Mmh, ouais, voilà. Trop dingue, trop fou.
C'est trop fou. Je...
Ah oui.
Ouais,
oui, parce voilà. qu'au départ, quand on l'a vu donc dans la librairie, moi je me suis exclamée en proie à une crise de régression donc monumentale.
Féminine.
Ça alors, fantomette. Ouais.
Voilà.
En même temps, bandette, c'est pas bandant non plus.
Ah, j'ai c'est pas osé peu, le faire.
Non, mais moi, je le fais en tant que femme. Hein,
d'accord,
voilà.
Mais t'as le droit.
J'ai le droit, bien sûr, le droit que j'ai pris aux hommes de dire ce genre de choses.
Je vous sens déchaîné,
oui, oui, oui,
Anne,
tout à fait.
Aujourd'hui.
Voilà, donc bandette, et c'est pas très... Enfin oui, ça fait un peu bizarre comme nom. Mais en même temps, c'était tellement évocateur d'un souvenir d'enfance que, évidemment, j'ai tendu le bras.
Mais elle ressemble beaucoup graphiquement. Elle ressemble
oui,
beaucoup
oui,
à Fantomette.
Elle n'a pas son petit capuchon. Elle a pas, enfin,
il manque
capuchon,
le petit oui, capuchon
fait, oui.
style Batman. Là.
Oui, exactement. Oui, 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 tout à fait.
Non, elle, par contre, elle a une perruque.
Elle a une perruque, enfin, une perruque, oui, un peu comme la perruque rousse de Batwoman, est... si l'on devait effectivement la comparer
à
une
à
grande sœur
mais
prestigieuse.
Mais après, dans le contexte américain, où effectivement on retrouve des codes qui mm-hmm. fonctionnent à nouveau.
Ah bah la capounette aussi, hein, la cape.
La capounette, bon...
Bah bandette à la capounette.
Il faut sortir couvert.
Oui, voilà, exactement.
Ouais, merci, c'est une perche que tu m'as tendue.
Oui, donc effectivement, le, comment dire, bandette. Alors, on va quand même donner le nom de ceux qui ont fait cet album. Comment il s'appelle ?
C'est à la base. Donc, je vais citer l'éditeur.
Quand ah oui.
Ça
oui.
s'appelle EP.
Mmh, d'accord.
Et c'est publié par Dark Horse Books. Alors, mmh. je vais vous expliquer un petit truc
d'accord.
qu'on ne sait pas. Mmh. Vous rappelez des Beatles ?
Oui, ça me dit vaguement quelque chose.
Et Dark Horse, c'est une maison de disques qui a été fondée par George Harrison
ah, ouais.
et une maison d'édition. Ah. Mmh.
Ah. Alors là, Jean-Marc, heureusement que je
top,
suis
top.
Assise, mais pff, ah oui, oui, Top
c'est
Gun,
top,
si je puis me permettre ouais. de te citer.
Non, je ne veux pas être comparé à Tom Cruise. Merci.
Non, Top Gun quand même. Tant pis pour
donc,
toi.
Donc, c'est Dark Horse et, parce que... George Harrison a publié beaucoup de livres mm-hmm. et on ne sait pas assez.
On ne sait pas
et
toujours, il n'a pas fait que de la musique.
Non, pas assez, le pauvre. Mm-hmm. George,
oui.
on te salue.
Oui.
Et non, c'est un bouquin qui m'a un peu surpris parce qu'au début, graphiquement, j'ai trouvé ça très beau, le feuilleton. Et on pourrait presque le mettre dans des écoles de graphisme pour expliquer aux gens comment on fait de la bande dessinée. C'est,
oui.
Il y a un côté, il y a plein de côtés très techniques
oui.
à la fin.
Oui.
Peut-être qu'on en reparlera.
Il y a une annexe, oui, effectivement,
une annexe
où
qui est
la
assez
dessinatrice
riche, hein.
explique comment voilà. elle procède pour pouvoir produire sa bande dessinée.
Tobin and Couve,
différents logiciels.
Sont donc Madame Couve. Mm-hmm. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais ce n'est pas très intéressant.
Quoi ?
Mais non, mais c'est une femme. J'ai fait exprès. Et Colleen Couver. Donc, elle a un nom très américain, un prénom très américain. Donc, elle a beaucoup travaillé pour la publicité, ensuite pour les comics, DC, Marvel et tout ça. Et Paul Tobin, c'est des noms à la con, je veux dire, c'est pas très intéressant comme nom.
C'est pas Scott Fitzgerald, je te l'accorde.
Voilà. Et Paul Tobin, c'est un scénariste qui a travaillé, c'est pareil, qui a travaillé chez Marvel, chez DC, mm-hmm. etc.
Oui, voilà.
Donc, au départ, moi, j'ai écrit en anglais.
Non, mon Dieu.
Ben oui, mais après.
C'est ça, ton anglophilie.
Voilà.
Et oui, aux déceptions, aux rages, aux désespoirs.
Tout
oui.
à fait. Mm-hmm.
Et ils sont américains. Ah là là, caca. Donc,
non, non,
mais
j'ai
en même
pas,
temps.
J'ai pas dit que... Non, non, non. Mais,
en même temps, tu leur as trouvé beaucoup de qualité, l'album t'a plu.
C'est une. Ce qui est très intéressant, c'est que la première partie, hein, je vais vous expliquer un petit peu. Parce que
oui,
c'est
passons
compliqué.
À l'histoire, passons aux histoires, plus exactement, de bandette.
En fait, là, on présente le premier album. Mm-hmm. Donc, le premier album, c'est une compilation des publications en comics qui ont été faits aux États-Unis.
Donc le principe fascicule compilé. Voilà, en un album pour le marché européen.
Et le lancement, c'est génial. La première partie par Tobin et Travis, cover.
Oui.
C'est carrément génial. Après.
Ça se dégrade, c'est fini l'appart témoin. Hein. En fait, c'est ça. Il y a un appart témoin et après, ben, tu peux.
Voilà, c'est l'histoire du gars qui arrive au paradis et puis on lui dit tu vas aller en enfer.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà. Mm-hmm. Tout le monde la connaît, celle-là. Bon, c'est pas, je vais pas la répéter.
Oui.
Et donc après, on s'attache aux personnages de détail qui tournent autour de Bandite. Voilà. Et bon, elle est entourée de des petits compagnons qu'elle appelle des hérissons, qui sont c'est tous des voleurs de toute façon. Et elle a un truc qui est assez extraordinaire, c'est que Bandette, quand elle vole que des œuvres d'art. Hein.
Oui.
Et elle vole que des gens riches.
Ah oui, c'est
que
bien
des
ça.
Gens riches.
Oui. Donc c'est Arsène Lupin.
Un petit peu. Puisqu'on avait pensé à soit la musique d'Arsène Lupin ou de Fantomas. Enfin bon. Donc elle ne s'enrichit pas forcément personnellement, mais elle s'amuse beaucoup.
Oui.
En fait, c'est un jeu pour elle. Donc elle saute sur les toits ou au-dessus des toits.
Oui. Hein.
Et elle a un don avec les animaux. Donc à un moment, il y a un petit chiot qui la croise et lui dit tu viens avec moi, tu viens m'aider à cambrioler. Puis le chien est tout content, donc il court après. Et donc elle est habillée un petit peu comme fantomate.
Oui.
Et
avec un collant, des ballerines, une petite robe courte,
voilà.
Une petite
les mêmes
cape,
couleurs.
Pas une longue cape, oui, tout à fait.
Les mêmes couleurs.
Oui, le rouge
et au niveau graphique, il y a un travail qui est. Moi, j'ai été bluffé, voilà. Je sais pas, tu l'as pas vu de trop, mais bon.
Oui.
Après l'histoire, bon.
Classique.
C'est classique, mais c'est une histoire de. C'est une petite voleuse.
Donc, effectivement, bon, c'est des petites aventures un peu qui s'approchent, la bande en moins, enfin les sœurs en moins, qui peut se rapprocher de Cat Size.
À peu près.
Oui.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle a des relations qui sont assez bizarres avec un commissaire qui s'appelle le commissaire Belgique.
Oui.
Alors, je ne sais pas si ça a été fait exprès, parce que vu des Américains, je ne sais pas ce qu'on peut en croire ou en penser. Et ce commissaire belgique, c'est un peu comme Batman avec le commissaire Gordon.
Oui, 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 tout à fait.
C'est un rapport assez bizarre et souvent, il lui demande de l'aide. Et il ne la poursuit pas particulièrement. Et puis, elle a plein de copines qui lui donnent des coups de main.
Oui.
Il y a une bande de filles qui lui fait échapper à pas mal de problèmes. Hein. Parce qu'elle est poursuivie. Il y a pas mal de malfrats qui ne l'aiment pas trop.
Il faut les comprendre aussi.
Oui, il faut les comprendre. Et puis, il y a un coursier qui est vachement gentil. Hein, tu l'as vu, le coursier?
Non.
Bon, il s'appelle Daniel.
Ah.
Voilà. Et lui, il lui rend plein de services.
D'accord.
Donc,
qu'est-ce qu'il lui rend comme service?
Non.
En tant que coursier.
Il n'y a rien de sexuel. C'est pas parce que ça s'appelle Bandette.
Oui, il lui amène le courrier pendant qu'elle cambriole. Une facture EDF.
Non, mais il la dédouane souvent par rapport à des situations.
Ah, bien.
Mais bon, elle adore les animaux. C'est un personnage attachant, tout au moins dans la première partie.
Donc tu penses que ça s'adresse plutôt aux jeunes, aux adolescents, et peut-être à un public adulte qui est un peu en nostalgie justement de la bande dessinée qui était plus fraîche et innocente à l'époque de Franquin
C'est-à-dire que là, on pourrait la comparer à Spirou ou à Tintin. Il n'y a pas de sexualité là-dedans.
Oui.
Absolument pas. On ne sait pas ce qui la guide, à part que elle est folle.
Le goût des aventures, le goût de l'aventure, en fait.
Voilà, exactement. Oui. Et en plus, elle connaît bien l'art.
Oui.
Dans ça, on ne sait pas d'où elle connaît l'art. Ce qui peut paraître assez surprenant.
Oui, il peut y avoir aussi une valeur pédagogique, en fait, dans cet album.
Mais oui, parce qu'on découvre des œuvres d'art dont on a forcément entendu parler. Et bon, elle les vole. Mais elle ne les vole pas à but lucratif dans son monde de vol de tableaux et de choses comme ça, parce qu'elle vole des tableaux, mmh. et pas n'importe quoi, elle connaît l'art. Et elle vole aussi une pièce de monnaie qui est extraordinaire, avec un dollar, avec un personnage qui a des cheveux ondulés dessus. Mmh. Et il paraît que c'est la pièce la plus rare du monde.
Ah oui, oui, oui. Ça c'est très, très effectivement cher. Très propre à la culture américaine, oui. Mmh.
Elle a des gens qui volent en parallèle.
Oui.
Donc elle a deux compétiteurs qui sont un monsieur qui s'appelle Monsieur et qui lui est un collectionneur d'art et qui a une apparence tout à fait normale. Et puis après il se déguise. Il ressemble, lui pour le coup, il ressemble un petit peu à Batman.
Ah d'accord. Oui.
Plus maigre.
Il fait moins de muscu, effectivement. Voilà. Il est moins, oui, il est moins taillé en V, voire.
Il n'est pas taillé en V, c'est un I droit. Là.
Mm-hmm. Oui, voilà, c'est un point d'exclamation.
Un peu.
Oui,
un peu.
Oui, avec oui, la tête. Il ne prend pas de testostérone.
Le point, il est au-dessus.
Oui, voilà, exactement. Il est renversé.
Voilà. Mm-hmm. Et autrement, elle a une ennemie qui est assez marrante, donc j'ai bien apprécié. C'est qui est comment on dit, une femme torero. Ah, c'est bon, toréatrice
sans doute, oui, on y est presque.
Je ne sais pas.
À 3-4 syllabes près.
Ouais. Et non, c'est assez marrant. Donc, elles ont des combats toutes les deux. Et puis, voilà, moi, je préfère, sincèrement, on en a parlé tout à l'heure, toute la première partie qui est par nos deux auteurs d'origine.
Oui, tout à fait.
Et toutes les séquelles, comme on dit. Alors, séquelles en français, ça fait mauvais, mais en anglais, ça veut simplement dire suite.
Oui, exactement.
Voilà.
Et ça ne s'écrit pas de la même façon.
Non, il y a deux L, S en français, et puis un L.
Voire un S quand il y en a plusieurs.
Et il y a aussi, pour rigoler, puis pour rigoler, oui, on peut rigoler. Qu'a donc volé Bandette ? Bandette, je fais exprès. Ça peut être la mafia sicilienne à New York, ça. Bon, elle a volé des petits Rembrandts, des choses comme ça, les pièces dont on a parlé tout à l'heure, Degas, ouais, des choses intéressantes. Donc, c'est une fille qui a beaucoup de goût. Et du vin aussi.
Ah oui, oui, oui.
Une femme qui aime le vin, ça ne peut pas être mauvais.
Exactement.
Enfin bon, je sais pas, je m'avance. Non, c'est un drôle d'album, parce que j'ai une première appréhension, et puis finalement c'est très bien.
C'est plus riche qu'il n'en a l'air, oui. Oui, oui.
Ouais, complètement. Mmh. Et puis la notice technique à la fin, c'est bluffant.
Oui.
Pour les gens qui connaissent un petit peu l'impression et tout ça, c'est très bien fait. Moi, je suis désolé, Bandette, on va te laisser.
Oui, hein? Exactement.
Mais bon, c'est sympa.
Oui.
Très sympa. Pour toute la première partie et la conclusion.
Exactement.
Et le côté comics, après, c'est pas très intéressant. Voilà. Maintenant, on va partir loin, on va voyager un petit peu. Hein?
Il revient à ma mémoire. Des souvenirs périlés, et il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Et par la fenêtre de la radio, je vois que le soleil est sorti.
Ah oui ?
C'est magnifique, c'est la musique de...
Douce France. Non.
Douce France de Charles Trenet.
Oui.
Interprété par Carte de Séjour.
Oui, Carte de Séjour.
Groupe lyonnais, il ne faut pas l'oublier parce qu'on est à Bourg-en-Bresse, on n'est pas loin.
Oui, voilà.
On va en parler. Et là, bon, on va partir en aventure, hein, puisque on a. Moi, je ne connaissais pas du tout. Une aventure de Nadir Wallou. Je fais exprès de prendre l'accent. De Gyps et d'Amani, qui est à la boîte à bulles. C'est la maison d'édition. Et Wallou, ça s'appelle Wallou en Algérie. Alors, Wallou, ça veut dire c'est bien en algérien. Hein. Moi, je sais. Et Wallou, c'est un personnage qui est complètement bizarre et atypique. C'est un détective privé qui habite en France, mais qui est... je pense qu'il est né en France. Je crois qu'il est né en France. Mais il est algérien de descendance. Il s'est bien marqué une aventure de Nadine Wallou. Je fais exprès comme ça. Mais ceux qui me connaissent comprendront. Et donc, on va lui confier une mission en tant que détective privé de retrouver la fille d'un couple franco-algérien. La maman est française, le papa est algérien. Et donc, le papa est parti avec sa petite fille. Bon, ça paraît dur et sordide comme ça. Et en fait, c'est une BD qui est totalement hilarante. Enfin, qui est pleine de... Aide-moi, Anne.
Mais Jean-Marc, j'allais pas te laisser sur le bord de la route.
Non, mais
pleine d'humour, tu sais, ce mot qui commence par un H.
Oui,
voilà.
Mais de références surtout.
Oui, oui,
on
oui.
On trouve plein de références.
Bah, en fait, c'est une bande dessinée qui, oui, effectivement, fait plein de références à des événements en Algérie depuis entre 1985 et en gros 2001, et qui a une relation, je dirais, très distanciée et très, très drôle, avec beaucoup d'humour noir aussi, à la fameuse décennie noire, donc, qui correspond en fait à la décennie où le GIA et l'armée donc, du pouvoir algérien se sont affrontés au détriment de la population qui en fait a vécu une décennie de véritable terreur.
On retourne même au moment de la guerre d'Algérie.
Oui.
On en parle aussi.
Oui, parce que de toute façon, il y a une génération qui, elle, a connu donc la guerre d'Algérie, l'indépendance,
oui,
et qui
parents,
donc a l'impression de vivre par certains côtés certains aspects de la guerre d'indépendance en Algérie. Alors, ce qui est bien dans cet album, c'est effectivement qu'il y a une petite introduction dans les pages de garde sur la situation historique et donc effectivement sur ce qui a provoqué la décennie noire, à savoir que pour la première fois, le FLN a lâché du lest donc à la fin des années 80 pour organiser des élections législatives. Et en fait, ces élections législatives ont été gagnées par le FIS et le pouvoir algérien, par peur de l'installation, de la mise en place d'un État islamiste, a donc invalidé ces élections, ce qui a provoqué évidemment donc toute une série de violences avec toute une série d'affrontements entre l'armée et le FIS. Mais bon, il faut quand même savoir, et bon, je l'ajoute hein, à titre personnel, que derrière il y a quand même des enjeux économiques autour de la mainmise entre l'Europe, les États-Unis et la Chine, des relations sur la matière, sur les matières premières en Algérie. Oui, donc cette fameuse partie. Quand on connaît la géographie de l'Algérie, on sait que bon. Comment dire, il y a tout ce qui est gaz et pétrole et d'autres matières premières très importantes qui se trouvent donc dans le sud de l'Algérie, enfin dans la grande partie.
Alors ce qui est compliqué pour lui, c'est quand il quitte Paris, parce qu'il habite Paris, hein, et il n'a pas trop envie d'y aller, a priori, chercher la petite fille en Algérie. Parce que lui, il est né à Paris, c'est un titi parisien.
Oui, quasiment, un titi parisien du 9-3.
Oui, mais bon.
Qui a son agence dans une cave. Voilà, oui, tout à fait. Et donc qui reçoit cette dame qui a vécu, enfin qui a connu en 1985, un jeune homme algérien avec qui elle s'est mariée, avec qui elle a une petite fille, avec qui elle est partie vivre en Algérie, et qui donc, un jour le quitte et se retrouve à devoir partir sans sa fille et qui désire quand même
ça me rappelle
la revoir,
un bouquin,
tout simplement.
Ça, jamais sans ma fille.
Oui,
non,
voilà.
Pardon, j'ai pas fait exprès.
Non, mais excuse-toi, Jean-Marc, excuse-toi platement.
Mais par contre, il faut préciser tout de suite que c'est très drôle.
Oui.
Mais parce que le sujet, il a l'air un petit peu.
Non, mais je pense que nos auditeurs ont bien saisi que, en fait, oui, c'était vraiment très drôle. C'est, de toute façon, je veux dire, pour avoir une amie franco-algérienne qui me fait des blagues concernant des situations que nous, on considère toujours occidentaux avec,
prudence.
Une espèce de mauvaise conscience, la voix tremblante de.
C'est comme les juifs qui racontent des blagues sur les juifs.
Oui, voilà, exactement. Donc, il y a quand même un regard très distancié sur ce qui se passe en Algérie de la part des Algériens. Mmh. Et donc, ce qui est vraiment très bien, c'est de pouvoir avoir justement ce regard qui, en plus, le bon humour le veut, se veut vraiment une bonne analyse de la situation.
Mmh. Alors, je rappelle simplement, parce que moi, ça m'avait interpellé. Si, ça m'arrive. Wallou en Algérie avec les codes couleurs, donc on a Wallou qui est écrit en vert, Algérie en rouge et puis un espace blanc bien entendu. Donc
alors,
c'est le drapeau.
Attention, c'est le drapeau algérien.
Voilà, c'est le drapeau algérien.
Ah ouais, ça a été une révélation.
Non,
attention.
Ce qui est assez particulier, c'est quand Wallou, Nadir Wallou.
Non, mais c'est.
Et
ça veut
quand
tout dire,
il arrive en Algérie, on lui dit toujours.
T'es un immigré.
Et il répond je fais l'accent, je m'excuse. Je ne suis pas immigré, je suis français comme Zidane. Voilà. Et ça ressort tout le temps.
Oui.
Parce qu'on le remet en cause en permanence dans son parcours.
Oui, disons qu'effectivement, c'est déjà pas très évident d'être un arabe en France, même né français.
C'est encore pire là-bas.
Et là-bas, il est un immigré. Donc en fait, il n'est jamais tellement chez lui quelque part, que ce soit en France ou en Algérie, oui.
Mm-hmm. Surtout que sur immigré, il y a un jeu de mots. Moi, je connais bien les jeux de mots.
Oui.
C'est immigré, un gris.
Oula.
Ah non, mais j'ai fait.
Oui. Tu l'as fait.
Non, mais on l'a déjà fait. On connaît ça. Mm-hmm. On l'a entendu déjà tout ça.
Oui. Mm-hmm.
Et ce qui est marrant, c'est quand il arrive en Algérie, alors c'est comme un inspecteur, enfin un privé américain. Il va à l'hôtel, etc. Et il se fait engueuler par sa mère, qui l'appelle de France. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu fous à l'hôtel ?»
Oui, voilà. Alors que j'ai prévenu ma sœur et il y a ton cousin qui t'attend. Oui, voilà, exactement.
Et après, il se retrouve empêtré avec un cousin qui est... moi, ce n'est pas le meilleur des cadeaux.
Mm-hmm.
Et il se retrouve aussi empêtré avec des extrémistes.
Oui. Alors, les extrémistes sont assez marrants parce que ce sont quatre frères.
Mais c'est des ombres.
Oui, c'est des ombres au début, puis après, donc on les voit de plus en plus détaillée. Et au début, on ne s'en rend pas compte tout de suite, c'est ça qui est vraiment très drôle, et c'est un des ressorts comiques que je trouve le plus réussi de l'album, c'est que, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un hommage aux Dalton, puisque, en fait, on se rend de plus en plus compte...
C'est les mêmes.
Oui, voilà. Alors là, bon, on spoil un peu, faut bien le dire. Mais bon, on ne le voit pas sur la couverture, parce que sur la couverture, on voit effectivement l'ombre de quatre hommes, une ombre menaçante, mais en fait, on se rend compte que c'est un hommage effectivement au Dalton.
Il y a beaucoup d'hommages là-dedans.
Oui, des références.
Au film américain, à la BD, etc. Il y a beaucoup d'hommages.
Et surtout, en fait, avec ce titre qui est aux couleurs du drapeau algérien, on se rend compte que c'est un album qui aime l'Algérie, qui nous l'a fait aimer et qui justement réconcilie aussi à terme finalement le héros avec lui-même.
Tout à fait.
Oui, c'est fort, hein, c'est grand.
Non, mais en plus, c'est très sympa. Très sympa.
C'est très bien dessiné. C'est en fait la ligne claire, mais un peu accentuée, parce que la ligne claire qui est fine, en fait, elle est vraiment... Elle est plus épaisse, effectivement, avec des cases qui ont pour particularité, c'est donc...
Il y a beaucoup de cases éclatées.
Il y a beaucoup de cases éclatées avec des bulles qui sont prises dans le cadre de la case, donc qui souvent sortent en fait du cadre. Il y a des aplats de couleurs assez saturés. Donc, et puis, en fait, c'est vraiment de la pure bande dessinée, puisqu'en fait, on est sur... comment dire, chaque planche, en fait, est toujours sur trois registres de trois bandes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a jamais de pleine page, on n'a jamais finalement de déstructuration de cette mise en page. Elle est constante du début à la fin de l'album, si bien qu'en fait il y a une espèce de côté assez classique, mais en même temps un classique revisité.
Tout à fait. Moi je ferais juste remarquer que au niveau des architectures et puis des personnages, c'est assez extra.
Bah, les personnages sont les très voitures, bien caractérisés.
Les marchés aussi, les voitures.
Oui.
C'est très très chouette.
Bah, c'est très documenté. Les arrière-plans sont vraiment très bien dessinés, si bien qu'en fait, quand on est à Oran, notamment, on a vraiment des vues d'Oran qui sont précises.
Mais t'as des jus d'orange ?
Ouh
là là, elle était forte.
Youhoufou. Ah ben, je ne l'ai pas vu venir. Hein. Je me suis fait complètement déborder. Voilà, exactement. Oui.
Non, j'aime bien les personnages, j'aime bien les décors, j'aime bien la construction. Là, ce n'est pas un gaufrier. Pas du tout.
Non, ce n'est pas un gaufrier, mais bon, il y a quand même des...
Non, mais il y a une structure.
Oui.
Mais en même temps, il y a des cases qui sont carrées, il y a des cases qui sont arrondies. J'en ai vu...
aux angles.
Oui, arrondi aux angles. Ben ça,
aux
c'est
angles.
Ce qu'on fait ça tous les jours. Hein,
oui, mais c'est pas non plus. Oui, c'est ça.
Voilà, c'est un album très sympa.
Oui, très agréable à lire. Très, très agréable.
À la limite, je souhaite plein de bonnes aventures.
Exactement, et on apprend donc en plus des expressions arabes. C'est toujours bon à
apprendre. Ah oui, c'est traduit en plus à chaque
fois. Ah oui. Et puis des expressions qui ont vraiment un sens social, un sens relationnel, qui sont drôles.
Entre les frères,
oui, tout à fait,
parents,
exactement.
La famille, etc.
Les jeux sur les mots.
Et puis, il y a... Je fais juste une parenthèse,
oui,
j'irai
je t'en
pas
prie.
Plus loin.
Oui,
il y a le rôle
loin,
de
Jean-Marc.
La femme qui est un petit peu...
Ah bah forcément, forcément, si on parle de la société algérienne, forcément, la relation homme-femme est quand même un peu vue,
ouais,
un peu étudiée.
Voilà. Par contre, il arrive à ramener la jeune fille. Hein.
Ça se finit bien, effectivement.
Ça, bien.
Ça fait du bien que ça se finisse bien.
Voilà, tout à fait. Eh bien, oui, le temps passe.
Mais le temps passe, Jean-Marc.
Bon, on va passer à autre chose.
Oui.
Parce que c'est pas fini.
Oui. Au moins toi, Jean-Marc.
Dans notre génération, on aura reconnu Eric Clapton qui nous chantait Crossroads. Donc Crossroads, ça veut dire des routes qui se croisent.
Oui, voilà.
Et voilà.
Et c'est magnifiquement choisi, c'est toi qui l'as choisi, Jean-Marc.
Merci.
Oui.
Donc ce qui fait, ça nous permet d'arriver à un album que moi j'ai trouvé très mignon.
Mais très mignon, bien, c'est... moi, plus que mignon.
Non,
hein.
Non.
Plus c'était que mignon.
Très tentant, très tendance et vachement bien.
Excusez-moi, et réussi.
J'ai dit vachement.
Tendance réussie.
Ça fait 2 ans que je n'ai pas dit vachement à l'antenne.
Oh.
Et c'est une femme qui nous offre ça, qui s'appelle Aude Mermillot. Et ça va complètement avec Crossroads. Et, ça s'appelle Les reflets changeants. Là, on va comprendre pourquoi après.
Aux éditions Le Lombard.
J'allais le dire.
Ah, excuse-moi, Jean-Marc.
Voilà. Et ce qui est assez marrant, parce que c'est dans l'édition, c'est quand même... on a tous les protagonistes sur la couverture.
Oui.
Et en fait, c'est l'histoire de chemins qui se croisent. Alors au début, on se dit, tiens, c'est bizarre. Il y a une femme et 2 hommes et un chien. C'est important.
Qui se lancent dans le vide. Ils sont sur une plage et il y a un vieux monsieur qui les regarde à l'ombre d'un arbre.
Voilà.
Oui.
Et
qui sont-ils, Jean-Marc ?
Alors, qui sont-ils ? Merci. Voilà. C'est Elsa, 22 ans, qui est complètement paumée. Elle rêve d'amour. Et puis, elle cherche l'amour. Mais bon, elle n'est pas gâtée. Hein. Enfin, ça ne lui réussit pas trop.
Oui, elle est amoureuse d'un homme un petit peu plus âgé qu'elle, qu'on ne voit pas, hein, de toute façon, puisque les récits sont vraiment centrés sur ces trois personnages. Mais on sait simplement qu'elle a une relation un peu problématique avec cet homme, parce que lui, disons, n'est pas simple dans sa tête, sujet à des addictions.
Il n'y a personne de simple là-dedans.
Oui.
Hein.
Oui, disons que, ils sont...
Elsa, elle est peut-être un petit peu... Si, elle est ouverte à tout, quelque part.
Oui, tout à fait.
Mais elle attend plein de choses à 22 ans.
Bon. Oui.
Et puis, donc il y a Jean, c'est le monsieur qu'elle croise. Hein,
oui, tout à fait.
Qui a une petite histoire. Et il y a un monsieur, donc on est là, tout est éparpillé un petit peu.
Oui.
Un monsieur qui a 79 ans, qui lui, quelque part, avec son chien, c'est important le chien, il en a un petit peu marre de la vie. Est un peu fatigué. Non, il a épuisé.
Elsa, Jean et Émile, oui. Alors, Jean, 53 ans, donc le deuxième personnage, est cheminot, donc c'est lui qui conduit le train, et il a une certaine importance.
Ah, ça, c'est la fin, il ne faut pas raconter la fin.
Non, mais on ne va pas spoiler, il conduit un train, donc on s'en rend compte assez rapidement, on sait assez rapidement qu'il est cheminot, donc on ne va pas spoiler, effectivement. Et puis, il y a Émile, 79 ans, et Émile, effectivement, a connu l'Algérie. Puis, donc, a dû quitter l'Algérie au moment de l'indépendance, en juin 1962.
Donc, il a des traumatismes.
Exactement. Et à la suite d'une manifestation organisée par l'OAS qui a dégénéré et qui était aussi orchestrée pour dégénérer, n'est-ce pas ? Eh bien, à la suite d'une mauvaise chute, et donc, il a été blessé à la tête. Et étant blessé à la tête, il souffre de surdité et d'acouphènes qui le rendent à moitié fou.
Et en plus, il a une femme qui ne le satisfait pas ou qui ne l'accompagne plus ou qui est malade. Hein, sa femme n'est pas très...
Je ne crois pas me souvenir de ça dans l'album, en fait.
Si.
Ah bon ? D'accord. Alors,
non, mais ils ont un rapport qui n'est plus très positif.
Bah, disons que lui est complètement enfermé, en fait, dans son problème de surdité et d'acouphène. Donc, en fait, ils ont encore un rapport assez harmonieux.
Il n'entend pas ses enfants, ses petits-enfants, etc.
Oui.
Il fait semblant, mais il n'entend rien du tout. Et sa femme ne l'aide pas là-dedans.
Bah, elle ne peut pas le faire, étant donné qu'effectivement, elle ne peut pas intervenir sur un acouphène. Il est de plus en plus enfermé en lui.
Non, mais en plus, il est très taciturne.
Oui, tout à fait.
Donc, il ne se plaint pas.
Alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, c'est parce qu'ils habitent tous à proximité, entre Cannes et Nice, qu'en fait, ils vont se côtoyer. Et le récit, effectivement, crée un événement autour duquel ils vont se rencontrer et leur vie va être influencée par cet événement.
Mmh.
Voilà.
Bah, l'événement, c'est que le dernier, Émile... se jette sous un train. Il veut emmener son chien avec lui, parce qu'ils peuvent pas se quitter tous les deux. Hein.
Oui.
Il dit, et puis le chien, il veut pas. Donc, il échappe et le train est arrêté puisque Émile a été écrasé. Le chauffeur du train est complètement déboussolé.
Oui.
Et Elsa, elle, va récupérer le chien qui est paumé. Hein.
Oui.
Et l'adopter. Et en fait, elle aura une aventure avec Jean.
Oui.
Et ça ne va pas durer.
Oui, mais par contre, ça
va... Parce qu'elle le retrouve après. Et,
oui. Voilà. Mais par contre, cette aventure, à la suite de cet événement, va les amener à devenir, après avoir été amants, amis. Mmh, et donc, justement, ils vont conserver une relation l'un et l'autre.
C'est-à-dire amis, amants, à moitié amants, quoi.
Non. Amis. Et en fait, justement, ils vont chacun de leur côté refaire ce point sur leur vie qui va les amener vraiment à la solidifier. Parce qu'ils auront partagé ce drame.
Oui, cet impact, ça va les obliger à repartir d'un point zéro.
Oui, tout à fait.
Quelque part.
Oui.
Et ce qui sera plutôt constructif, en tout cas pour Jean.
Oui.
Puisque après, on va voir qu'il est en compagnie, quoi, qu'il est en couple.
Oui. Ça les amène à devoir faire un choix dans leur existence, c'est-à-dire que effectivement, ils sont l'un comme l'autre, ils ont des situations qui sont compliquées parce qu'ils ont du mal à faire des choix, parce qu'ils ont du mal à faire le tri dans leur vie, et en fait, cet événement va les amener à trouver justement la ressource en eux pour trier et finalement avoir des relations plus constructives.
Alors, comme disait, nous sommes sur France Culture, hein. comme disait Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
Ouais.
Non, mais j'exagère, j'ai fait exprès.
Mm-hmm. Oui, ah ben ça...
On est parti en... C'est comme le fond de la piscine.
Mm-hmm.
D'ailleurs, l'image de l'eau, elle est un petit peu là. On reparlera de piscine tout à l'heure pour un autre sujet. Mm-hmm. Et donc, c'est quand on touche le fond de la piscine, la seule solution, c'est de rebondir. C'est ça l'image du plongeon.
De remonter.
De remonter.
Oui.
J'ai dit quoi ?
Rebondir. Mais on peut rebondir.
Au fond de la piscine, on ne rebondit pas trop.
Oui, voilà, donc, oui.
Mais c'est un bouquin qui est très chouette. En plus, je n'ai pas trop parlé de graphisme, ni toi, mais c'est très bien dessiné.
Oui.
Il y a des ambiances, c'est très chouette.
Oui, c'est vrai que c'est assez classique. C'est de la BD dont le style graphique est tendance, mais tendance réussie.
Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui dessinent comme ça.
Oui.
Mais là, c'est positif, c'est bien fait.
En fait, la jeune femme, Aude Mermilio, qui a un petit peu moins de 30 ans, a un blog qui s'appelle lafillevoyage.com. C'est-à-dire que c'est sa passion, sa première passion, c'est voyager. Et donc, comme elle le dit, elle a pris soin de rater toutes ses études supérieures, mais en même temps, au fur et à mesure de sa vie, elle a réussi quand même à se former pour pouvoir devenir notamment illustratrice et scénariste de bande dessinée.
Et c'est très réussi.
Oui, c'est très réussi, effectivement. Oui. Donc, c'est un album que moi, j'ai trouvé vraiment, comme on dira, et là, je citerai, n'est-ce pas, un titre d'un très beau livre de Léon Blum, puisque nous sommes sur France Culture, je dirais, à échelle humaine.
Waouh. Bon, on passe au prochain, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais.
So long, Frank Lloyd Wright. I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon. So soon. I'll remember Frank Lloyd Wright. All of the nights we harmonized till dawn. I never left so long, so long, so long. All good days make a man, all good days make a win. Never change your point of view. Stop a while and think of you.
Bonsoir Paul, si tu nous écoutes, on vient de passer ta musique, c'était formidable. Est-ce qu'on va parler un petit peu... On n'a pas forcément l'habitude de parler de ça, mais si de temps en temps on l'a fait déjà. On va parler un petit peu d'architecture, mais L'architecture qui attire, c'est assez particulier. C'est une histoire d'amour entre un bâtiment et un chercheur. C'est,
on peut un dire étudiant, ça ça. Effectivement, en architecture. Ouais. Oui. Alors, c'est notre chouchou, hein, disons-le carrément.
Ah, c'est le best du best. Ah oui, alors il faut quand même dire que c'est Lucas Harari et exactement. C'est chez Sarbacane.
Sarbacane, oui, ça voilà. S'appelle l'aimant.
Et Sarbacane, ça lance des flèches, donc oui. Ça pique les bulles.
Oui, voilà.
Oulala, elle était trop forte.
Oulala. Et donc, l'aimant et non l'amant. Donc, l'aimant, donc, ça peut être
le participe. Pas le lac. Hein.
Oui, donc ça peut être le participe présent du verbe aimer, comme ça peut être un aimant, c'est-à-dire en fait cette pierre qu'on appelle la magnétite et qui effectivement attire le fer.
Et là, elle a une durée de vie qui est longue, cette pierre ?
Bah, en fait, ça dépend. Les aimants qui sont des aimants industriels, forcément, oui, tout ce qui est magnétique, en fait, perd de ses propriétés au fur et à mesure du temps. Mais,
d'accord.
Bon,
non, parce que moi, je pensais que pourvu que l'aimant Duras.
Oula. Donc, l'amant de Marguerite Duras, pour les personnes qui n'auraient pas saisi le jeu sur les mots. Bon, alors, quelle est l'histoire ? Allez, je raconte l'histoire.
Ouais, si tu veux.
Alors, donc, comment dire, Lucas Harari, en fait, est le fils d'un professeur d'architecture, monsieur Harari, qui donc, un soir, alors qu'il pleut, se réfugie dans un café et y retrouve, comme serveur au bar, un de ses anciens élèves, un de ses anciens étudiants, Pierre, qu'il n'a plus vu du jour au lendemain à ses cours.
Qui était très doué.
Qui était très doué. Et donc, Pierre et son professeur d'architecture décident de prendre un verre ensemble, s'installent à une table et Pierre raconte que sa thèse, qu'il avait pratiquement terminée, il l'a abandonnée parce que, étant absolument obsédé par son sujet, en fait, il a fait une sorte de crise d'angoisse monumentale et a eu des problèmes de santé suite à cette crise. Et donc, du jour au lendemain, il n'a plus du tout retrouvé, en fait, la thèse dont il s'est débarrassé. Donc, une sorte de blackout.
Il l'a détruite, en fait.
Il l'a détruite. Une sorte de blackout ultra-violent. Et son sujet de thèse, c'était donc le bâtiment des thermes dans la ville de Valls, qui a été...
pas Valls chez nous. Hein.
Oui, Valls, non pas Emmanuel, hein, Valls non plus.
Non.
C'est en Suisse. Donc, c'est un bâtiment de thermes qui est absolument remarquable, qui ressemble à de l'architecture, j'allais dire, de type moderniste, c'est-à-dire un peu influencé par le Bauhaus, mais en fait, c'est
merci
beaucoup plus récent.
C'est ce que j'allais dire.
Oui, mais je te le pique, Jean-Marc. Merci. Tu t'es fait doubler, là. Je me suis fait doubler tout à l'heure, tu t'es fait doubler. Et donc, c'est Peter Zutmore, ça s'écrit Z-U-M-T-M-O-R, qui est un architecte suisse et qui donc a réalisé ce bâtiment entre 1993 et 1996. Voilà. Donc la caractéristique de ces thermes, c'est d'être composé de plusieurs blocs qui en fait sont reliés par une seule façade, sachant que ces blocs sont en grande partie enfouis dans la terre pour finalement ne montrer des thermes qu'une partie complètement intégrée au paysage.
Ce qui nous mène un petit peu à l'énigme ou à la recherche qui va se poursuivre après.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il y a des pièces cachées.
Oui. Alors en fait, Pierre arrive à Valls en train. Et donc, il fait la connaissance de Christian, donc un berger, en fait, un paysan du coin.
Qui l'accueille.
Oui, voilà.
Qui le recueille même.
Oui, tout à fait. Et qui donc, sur la route, en fait, avec lui, va se trouver à croiser donc, un étrange personnage qui est un professeur lui aussi d'architecture, absolument obsédé lui aussi par ses thermes de Valls, qui est donc Monsieur Paul Valaret, je crois.
Qui habite tout. Comme un reclus.
Oui, et qui donc... non, tu confonds avec Testis, en fait.
Pardon.
Et donc, qui arrive en Porsche, donc, au terme romain, et qui va vouloir, faisant la connaissance de Pierre, absolument lui extraire les informations, enfin, lui...
Et qui veut lui voler son, sa recherche. Quoi.
Exactement, parce qu'il sent que Pierre détient la clé pour comprendre, en fait, les secrets, justement, des termes de Valls.
C'est en fait, excuse-moi, mais c'est Testis
oui.
Qui va lui transmettre, qui va lui parler du trou.
Oui. Pierre fait la connaissance, grâce à Christian, d'un homme, Testis, qui ressemble un petit peu à une sorte de...
D'ours.
D'ours, oui, qui vit dans un endroit un peu particulier, c'est-à-dire qui est berger, qui vit dans une bergerie à l'intérieur de laquelle il y a plein de souvenirs dans tous les sens. Et Testis, qui signifie témoin en latin, en fait, est celui qui se souvient...
Testimonial.
Oui. C'est celui qui... Mais testis, c'est d'abord témoin, s'il te plaît. Hein, d'accord,
Testimonial.
Non, Jean-Marc, c'est témoin. Oui, d'accord. Testimonial, c'est que... ouais, d'accord. Donc, Testis va lui raconter l'histoire, effectivement, de ce soldat qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc, est arrivé dans cet endroit, en Suisse, et donc a été très mal accueilli par la population, parce que donc on l'a considéré un peu comme un sorcier, étant donné qu'il avait des propriétés qui sont celles de l'aimant inversé, c'est-à-dire qu'en fait, il avait... il pouvait amener à lui des pierres de la montagne, enfin bon, voilà. Et donc, il avait découvert un passage qui permet de passer sous la montagne, de traverser la montagne. Voilà, donc c'est une sorte de mythe de voyageur
passage
qui traverse la matière.
Tout à fait, c'est un passage initiatique aussi.
Oui, une sorte de passe-muraille, déjà, de passe-pierre, de passe-montagne, ouais. Sans la cagoule. Donc, le secret du passe-montagne, oui, n'est-ce pas ?
Mets ta cagoule.
Oui, bon. Mets ta cagoule, Jean-Marc, on y va.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la fin de l'histoire. Parce que Pierre...
Non, mais c'est tout le suspense.
Pierre, il va faire des rencontres, on en a déjà parlé, il va faire des rencontres extraordinaires, notamment dans les bains.
Oui.
Il va rencontrer une femme.
Oui, qui porte un prénom approprié puisqu'elle s'appelle Ondine.
Ah, quel hasard.
Oui, quel hasard Balthazar. Donc en fait...
On est en forme aujourd'hui.
Oui, oui, n'est-ce pas Jean-Marc. Et donc, oui, en fait...
Donc il a une histoire d'amour avec Ondine.
Oui, oui, oui.
C'est normal parce qu'il cherche l'eau.
Oui.
Mmh. Et l'eau, c'est la purification. Enfin, on peut chercher encore plus loin. Je suis un peu...
Oui, tout à fait. Ben, en fait, si on prend le dictionnaire des symboles...
Moi, je parlais de Reburn. L'eau.
Oui, tout à fait.
C'est, vous savez, les gens qui... qu'on rebaptise à 50 ou 60 ans et qui renaissent.
Moi, j'y vois pas tout à fait, en fait, la religion ni les fonds baptismaux. Je vois au contraire quelque chose à l'inverse, en fait. C'est-à-dire plutôt proche d'une culture un peu animiste, un peu pré-chrétienne, où au contraire, je vois...
Vous êtes toujours sur France Culture.
Oui, toujours sur France Culture. Voilà, donc l'eau, si tu veux, c'est le principe de la métamorphose, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Mais en fait...
J'ai dit la même chose il y a 2 minutes.
Mais non, pas tout à fait, pas tout à fait. Non, non, moi, je vais pas apporter une connotation religieuse, et notamment religieuse chrétienne, du baptême. Moi, je dirais qu'on est plutôt dans l'idée que le personnage va aller jusqu'au bout de son obsession et de son idée. Parce que c'est un obsessionnel. En fait, on le voit, je veux dire, lorsqu'il s'assoit...
Il est fou, enfin, il a une part de folie.
Oui, mais c'est pas la folie, en fait, c'est pas la folie dangereuse, parce que c'est pas lui qui est dangereux. C'est celui qui n'a pas trouvé la clé qui est dangereux. Lui, il a trouvé la clé. Donc, en fait, la seule chose qu'il veut faire, c'est être en accord avec lui-même, retrouver une harmonie, mais qui n'est pas l'harmonie de la normalité. C'est pour ça, quand on en avait discuté, tu te souviens, on avait évoqué David Cronenberg. Et justement, la fascination de David Cronenberg pour le monde fantastique, mais aussi pour des personnages qui, à un moment donné, vont devoir faire un choix entre la normalité.
Ils sont obligés de traverser.
Oui, ils ne sont pas obligés, ils font un choix. Ils font un choix volontaire. D'accord. Donc, ils ne sont pas victimes, ils font un choix volontaire. Ils font le choix entre la normalité douloureuse et puis la folie libératrice. Mais la folie, ce n'est pas connoté chez David Cronenberg comme étant quelque chose... c'est que, en fait, c'est plutôt la critique de la norme.
Oui, mais tout à fait. Ça, c'est la base de l'écriture de Cronenberg.
Oui, on est d'accord.
Ah, pour une fois. Et j'aimerais bien que tu racontes la fin, ou que je la raconte.
Alors, oui, en fait, oui, Pierre poursuivi par son rival.
Parce qu'il y a qu'une fin qui est possible, en fait.
Oui, Pierre poursuivi par son rival, en fait, se retrouve donc dans les thermes à trouver un passage, puisque en fait c'est une sorte de rivalité autour du fait de trouver le passage qui est censé amener vers quelque chose.
Alors, dont on n'a pas la clé. Ce passage, on sait, excuse-moi Anne, de te couper, mais il y a une référence à ça. Ça part des thermes romains où il y avait des passages cachés, des pièces cachées.
Oui,
pour que les gens soient tranquilles.
Le prof d'architecture, encore une fois, Le personnage est vraiment traité comme un universitaire qui ne pense justement qu'à sa, comment pourrait-on dire, à sa renommée. Oui, il veut effectivement lui obtenir une renommée parce que déjà il expose en fait ses théories à une manifestation qui est très connue actuellement qui s'appelle TED, donc TED, et qui donc a trait aux recherches technologiques, aux recherches et aux découvertes technologiques. Et lui donc présente à l'une des manifestations internationales de TED donc sa théorie concernant le fait que les termes romains comprenaient toujours des passages secrets réservés donc à la connaissance seule de personnages importants de la société romaine pour que ceux-ci, en cas d'invasion, puissent en fait s'enfuir.
C'est et comme donc, c'est les bunkers et les blocos.
Exactement. Oui, à ceci près que c'est pas non plus une forteresse de défense. C'est fait pour passer d'un monde, enfin d'un endroit à un autre de façon secrète. C'est pas comme un passage secret en fait. C'est pas comme un blocos au sens de forteresse. Donc cet homme défend effectivement la fonction politique. La fonction politique de ces termes. Voilà. Donc en fait, Pierre, par le personnage de Pierre, en fait, plusieurs fois, va traverser ce passage. Il le traverse une première fois en traversant la montagne. Il le traverse une deuxième fois en fait, lorsqu'il découvre un passage et une pièce en particulier. Et à chaque fois, il se réveille sans savoir ce qui s'est passé. Donc il y a une forme de néantisation à travers un moment où il est inconscient et c'est là-dedans qu'il y a un moment d'ellipse dans le récit. Donc c'est très bien, c'est vraiment très très bien. On n'a pas de réponse.
On n'est pas d'accord sur la fin. Moi j'ai cru qu'il était mort.
Non, moi je pense qu'il a gagné l'infini.
Dans une autre dimension.
Oui.
Gagner l'infini. On va jouer au loto tout à l'heure.
Oui, voilà, exactement. Oui. Donc l'aimant. De Lucas Harari, aux éditions Sarbacane. C'est absolument sublime visuellement.
C'est très, très beau. C'est bien relié. C'est une belle pièce.
Comme
dirait le boucher, c'est une belle pièce.
Oui, tout à fait. Et visuellement, c'est absolument magnifique. Du bleu, du noir, du blanc, des touches de rouge.
Il y a beaucoup de jeux sur les lumières.
Oui, tout à fait.
Qui sont assez impressionnantes.
Oui, avec des gros aplats de couleurs. C'est dans un style qui rappelle un peu la taille d'épargne, le linotype. Donc, et ça fonctionne très bien.
Ça m'a rappelé un petit peu Huisman, je ne sais pas si tu connais.
Huisman, oui, je vois, oui.
Ouais, un petit peu.
Oui. Voire limite la carte à gratter par moment, la technique de la carte à gratter avec le portrait du personnage, justement, du soldat. Donc, que montre Christian, puis ensuite Testis.
Ce qui est très beau, c'est de faire des demi-pages noires et puis d'allumer la lumière. On a vraiment. C'est quand même assez prenant.
Oui, c'est très prenant.
On rentre dedans.
Oui, et le mystère est là jusqu'au bout. Et quand on referme l'album, le mystère est toujours aussi présent. Et c'est très émouvant, c'est très touchant. Moi, je trouve que c'est une totale réussite.
Oui, mais je ne connaissais pas du tout. Voilà,
oui, tout à fait.
Grosse découverte. Ce qui va nous permettre maintenant, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Donc, on le rappelle, Sarbacane. L'aimant, ça c'est Sarbacane, c'est la maison d'édition. L'aimant, et non pas l'amant, mais bon, ça attire quand même.
Oui.
Bof. Lucas Harari. Et ce qui va nous permettre de remercier, avant la fin de l'émission, nos partenaires. Donc, Montbarbon, qui nous a prêté ses bouquins. Le cercle
des poètes disparus, n'est-ce pas?
Non, des médiathèques de Bourg-en-Bresse.
Exactement,
c'est un peu mieux.
Oui, tout à fait, les médiathèques dans lesquelles il y a des collections de bandes dessinées.
Voilà,
on rappelle que l'une d'entre elles, Camus, est fermée pour un an, et elle va rouvrir.
C'est vrai. Oui, elle rouvrira.
Pour travaux.
Ok, ça marche. Et puis, on en reparlera, mais on a bientôt un nouveau partenaire.
Oui, voilà. Exactement. Et Radio B, bien sûr.
Ah bah,
grâce à laquelle
et Pauline.
Nous pouvons parler. Oui. Et
alors,
Pauline.
Vous allez croire que c'est toujours la même Pauline. Non, c'est non, plus non. La même. On a une Pauline toute neuve.
Merci Jean-Marc, elle appréciera.
Non.
Et la Pauline toute vieille est partie.
Ouais, elle n'était pas toute vieille. Pauline, si tu nous
d'ailleurs,
écoutes.
D'ailleurs, oui, notre Pauline de l'année dernière, un gros bisou.
Voilà.
Et bienvenue à notre Pauline de cette année.
Voilà. Et on va bien s'amuser.
Oui.
Bah, on peut lancer le générique.
On va lancer le générique. Allez, ouais. Jean-Marc, lance le générique.
Viens, petit.
petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des
clip, crop,
des
bang,
des
bang,
et des
zip, shabam.